C'est un exposé sur l'internationale communiste, qu'on appelle aussi la troisième internationale, ou en abréviation du nom le Comintern. Donc c'est le même mot pour désigner cette organisation. Donc objectivement, c'est une organisation très importante dans la première moitié du siècle. C'est une véritable organisation internationale, bien plus que ses prédécesseuses, les deux premières internationales qui étaient surtout. C'est une organisation qui est puissante par son influence dans plusieurs dizaines de pays, jusqu'à 80 pays, même si c'est plus vrai en Europe, en Amérique latine et en Asie. Cette influence s'exerce à travers les partis communistes qui sont des sections nationales et qui comptent des milliers, des dizaines de milliers, voire dans quelques cas des centaines de milliers de membres, plus le parti russe évidemment qui a des millions de membres, et l'influence de ces partis s'étend bien sûr à toute une série d'autres organisations, des organisations syndicales, des associations, et donc à travers elles à des millions, voire des dizaines de millions de travailleurs, de travailleuses, et aussi des intellectuels et des paysans et paysannes. Et cela va jusqu'à la conquête du pouvoir politique dans un certain nombre de pays, les pays de l'Est, la Chine, le Vietnam, après la Seconde Guerre mondiale, donc historiquement c'est après fin de l'international communiste, je vais y revenir, mais une partie des gens qui exerceront le pouvoir après la guerre dans ces pays-là ont été formés par cet international. Donc, c'est une influence qui, objectivement, justifie de s'y intéresser après. Pour nous, l'intérêt de s'y intéresser, c'est que l'influence en question qui est importante, elle s'est faite pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur parce que notamment au début de l'existence, l'international communiste a été un facteur de mobilisation et parfois de mobilisation révolutionnaire, avec des résultats en termes de conscience, en termes d'organisation et parfois en termes d'acquis. Elle a fait trembler la bourgeoisie dans de très nombreux pays et influence aussi pour le pire, avec notamment un processus de dégénérescence assez rapide du point de vue révolutionnaire, donc influence d'entrave, facteur d'entrave aux mobilisations et a fortiori au processus révolutionnaire, surtout dans les années 30, mais en fait dès le milieu des années 20, où l'international communiste en quelques années devient un outil de la politique internationale de l'Union soviétique et de sa politique stalinienne, plutôt que un outil de la... Donc, c'est les deux raisons pour lesquelles on est fondé à faire un exposé sur cette organisation, raison objective, et pour ce que nous, on peut en tirer comme leçon du point de vue d'un facteur révolutionnaire qui se transforme par un processus de dégénérescence en facteur finalement anti- ou contre-révolutionnaire dans les années... Alors, du point de vue de l'objet historique, il est assez aisément saisissable pour trois raisons. D'abord par ses dates, il a une durée de vie assez circonscrite. Elle naît en mars 1919 et dissoute organisationnellement en mai 1923. C'est un objet assez circonscrit aussi par sa taille limitée. Alors évidemment, tous les partis communistes en sont membres, mais ceux qui font vraiment fonctionner l'international sont en nombre relativement limité, quelques centaines, un millier de plus, c'est-à-dire les dirigeants politiques de ces partis qui sont petit à petit de plus en plus sélectionnés et contrôlés par le centre de Moscou, ce qui donne une certaine homogénéité idéologique aux membres de l'organisation. Et dans ces 1000 membres, il y a donc les dirigeants proprement politiques et tout un ensemble de personnel administratif, technique, des courriers, des émissaires, des fabricants de faux papiers, etc. Concrètement, toutes ces personnes étrangères sont logées à Moscou dans un hôtel spécial pour les étrangers qui s'appelle le Luxe. Il y a donc une possibilité pour les historiens aujourd'hui de faire la liste de tous les membres qui ont fait fonctionner l'international avec des biographies individuelles de presque tous. Enfin, c'est un objet qu'on peut aussi circonscrire par des archives qui lui sont propres. Il y a beaucoup de publications officielles multilingues dès le début, beaucoup donc de documents qui ont circulé dès l'époque où ils ont été écrits. Et puis, bien sûr, depuis l'ouverture des archives à la fin de l'Union soviétique, donc dans les années 90 et 2000, même s'il y a parfois des difficultés d'accès à ces archives, y compris la vente de certaines, on connaît aussi les rouages plus secrets de cette organisation qui, dans une certaine mesure, a un fonctionnement illégal, en liaison parfois avec les services secrets soviétiques. Et donc, c'est une source inépuisable pour les historiens, mais aussi les journalistes, etc. Alors, je vais faire un exposé qui suit un plan lui-même révélateur d'une orientation, donc classiquement trotskiste, puisque, en gros, après un rappel sur les origines de la Troisième Internationale, il y aura deux parties. Une première sur l'international communiste dans la vague révolutionnaire entre 1919 et 1923, qui sont des années d'effervescence extrêmement dense sur le plan de classe, mais aussi sur le plan de l'élaboration politique qui se joue tout particulièrement dans les quatre premiers congrès de cette internationale. Et une deuxième grande partie sur la dégénérescence bureaucratique de l'international communiste, qui est ponctuée par les 5e et 6e congrès en 1924 et 1928, mais on va voir qu'ils ont déjà beaucoup moins d'importance que les quatre premiers. Et je fais le choix de traiter juste sur la forme d'un épilogue les dernières années de l'international communiste dans les années 30. Ce sont évidemment des années très importantes, les années du fascisme et des fronts populaires, mais au cours desquelles l'international communiste a probablement cessé d'être un quelconque instrument de la révolution pour devenir purement et simplement un outil de la bureaucratie stalinienne. Et donc on peut considérer avec Trotsky que après la grande défaite du prolétariat allemand que représente l'arrivée de Hitler au pouvoir, l'international communiste est morte en tant qu'outil de la révolution. Donc, juste à titre de rappel, puisque je crois que des exposés ont été faits récemment sur les deux premières internationales, donc on l'appelle la troisième, puisqu'il y a eu d'abord l'AIT, l'Alliance internationale des travailleurs, ou la première internationale, donc 1864-1876, qui représente le mouvement ouvrier du cœur du 19e siècle, la renaissance de ce mouvement ouvrier qui avait été battu après les révolutions européennes de 1848-1849. Donc c'est la renaissance du mouvement ouvrier dans les années 1860, et la vie de cette internationale se caractérise par une grande diversité d'organisations de débat, avec une tendance à la direction politique de Marx et Engels, mais quand même une diversité interne, et notamment des débats entre les marxistes et les anarchistes. Et finalement, c'est la défaite de la Commune de Paris qu'on peut considérer comme la fin de cette internationale, que ça entraîne une période de réaction très forte en France, mais aussi en Europe. Et finalement, elle ne résistera pas aux conflits internes qui, à partir de là, prennent dessus. La deuxième internationale, elle naît en 1889. Officiellement, elle existe toujours aujourd'hui. Hein, cette internationale des partis socialistes et apparentés. Mais disons que son âge d'or, c'est de 1889 à la Première Guerre mondiale. C'est une internationale qui, elle, est composée de partis, alors que la première internationale était composée de diverses organisations, des syndicats, des partis, des associations diverses. Donc la deuxième, c'est des vrais partis, des partis de classe, qui structurent les classes ouvrières de leurs pays respectifs, en tout cas, qui officiellement est dominée par les marxistes, notamment à travers le SPD allemand, donc le parti social-démocrate, qui en est le principal parti, mais il y a aussi les travaillistes britanniques qui font partie de la deuxième internationale et qui, eux, ne se disputent pas. Et son activité, ça combine des actions ouvrières, des grèves, des manifestations, des actions classiques de classe, et une utilisation du suffrage universel qui, à ce moment-là, existe dans la plupart des pays d'Europe, qui donne des résultats assez importants, avec une puissance parlementaire des partis sociaux-démocrates, socialistes ou travaillistes, peu importe les noms qu'ils ont, mais c'est à peu près analogue dans les différents pays. Et ce poids parlementaire combiné aux luttes donne des acquis sociaux assez importants, donc des lois sociales. Mais ça a aussi comme résultat une dérive progressive de ces partis, de la direction de ces partis vers ce qu'on appelle l'opportunisme, à savoir l'idée que il vaut mieux recourir à des méthodes légales et à des réformes pour passer au socialisme. Donc on abandonne de fait progressivement dès le programme de la révolution et on sombre dans un certain parlementarisme et le Il y a de premières tensions à l'intérieur de la Deuxième Internationale après la Révolution russe, la première de 1905, qui est une révolution très importante où pour la première fois apparaissent ce qu'on appelle les soviets, donc les conseils dans lesquels les ouvriers s'auto-organisent. Mais l'analyse de cette première révolution russe par la direction de la Deuxième Internationale est très superficielle et très localisée. Ils n'en tirent pas des leçons générales. D'ailleurs, ce n'est pas l'objet de grands débats dans l'organisation. Et à ce moment-là, apparaît une gauche dans la Deuxième Internationale, avec notamment Rosa Luxembourg, Clara Zetkin, Anton Paluk, qui vont, dans les années suivantes, engager une première bataille politique contre la direction de l'Internationale, dont Kautsky, qui est le principal agent. Les bolcheviks russes vont participer aussi à une partie de ces luttes, avec quand même une plus grande confiance dans la direction de Kautsky de la part de Lénine, par exemple. Les limites de cette bataille, non seulement elle n'aboutit pas, mais elle ne se transforme pas en une lutte de tendance ou de fraction à l'intérieur de la Deuxième Internationale, de sorte qu'au moment où, avec la Première Guerre mondiale, celle-ci, je vais l'expliquer, se rallie aux gouvernements nationaux des pays dans lesquels les partis existent, la gauche se trouve complètement démunie. Et donc, l'origine immédiate de la Troisième Internationale, c'est dans cette Première Guerre mondiale qui éclate en août 1914. Et contre toute attente, en tout cas du point de vue de ceux et celles qui faisaient confiance à la direction de l'Internationale, les chefs des partis sociaux-démocrates allemands, du Parti socialiste français et la plupart d'autres décident de voter les crédits de guerre pour que leurs gouvernements respectifs mènent la guerre les uns contre les autres. Dans certains pays, ils vont jusqu'à rentrer dans le gouvernement au nom de ce qu'on appelle l'union sacrée, c'est-à-dire l'union nationale dans l'effort de guerre. C'est le cas notamment en France et en Belgique. L'Internationale suspend purement et simplement son existence, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de réunion du bureau, de la direction, le bureau socialiste international de toute la guerre. Il y aura seulement quelques réunions des partis socialistes de chaque des camps de manière séparée. Il n'y a donc par là même aucune campagne de l'Internationale contre la guerre, même sur une orientation limitée. Mais il y a un ralliement pur et simple à la guerre elle-même. Donc c'est une catastrophe du point de vue des valeurs qui avaient été défendues jusqu'à présent dans ces partis, puisque ces partis avaient mené des campagnes contre le militarisme, contre les préparatifs de guerre qui évidemment se faisaient bien avant, contre le chauvinisme, etc. Ils capitulent en race campagne dès que la guerre éclate, et c'est conçu comme une catastrophe, notamment par Lénine, qui au début croit que c'est un mensonge que diffusent les journaux et que ce n'est pas possible que notamment les sociaux-démocrates allemands aient voté les crédits de guerre. Donc seule une toute petite minorité des socialistes, au sens large, va résister à cette politique de la Deuxième Internationale, parmi lesquels il y a les Russes, aussi bien les bolcheviks qu'une bonne partie des dirigeants mencheviks, puisque les Russes sont divisés en deux fractions. Donc les députés russes à la Douma, qui est le gouvernement de l'Empire tsariste, votent contre les crédits de guerre. Il y a Trotsky, qui n'est ni bolchevik ni menchevik à ce moment-là. Il y a des syndicalistes révolutionnaires de France. Il y a Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, qui sont députés du SPD allemand, le seul à s'opposer à la guerre à l'automne au Parlement. Ces différentes figures vont d'emblée décider qu'il va falloir que l'Internationale est morte. Rosa Luxembourg dit que c'est devenu un cadavre pourri. et qu'il va falloir non seulement mener le combat contre la guerre impérialiste, mais aussi, à un moment ou à un autre, construire une nouvelle internationale. Cela va se traduire par des conférences internationales pendant la guerre. La première, c'est la conférence de Zimmerwald, qui est un village suisse, en septembre 1915. Et la deuxième, c'est la conférence de Kental, un autre village suisse, en avril 1916, au cours duquel quelques poignées de ces socialistes de différents pays d'Europe se réunissent pour élaborer une politique contre la guerre, impérialiste, qui exige l'arrêt des hostilités, qui essaye de trouver des moyens de mobiliser les travailleurs et les soldats contre la guerre, mais ça reste essentiellement des positions de principe, car ils n'ont pas beaucoup d'influence concrète sur les travailleurs et les soldats, vu que le mouvement ouvrier, évidemment, totalement désorganisé et détruit en réalité hein, par la guerre, avec des débats internes, hein, ils ne sont évidemment pas tous et toutes d'accord, il y a des discussions entre, disons, une aile qui est plutôt pacifiste, qui veut l'arrêt des hostilités purement et simplement, et une aile minoritaire avec notamment Lénine qui veut la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile pour profiter de cette situation pour entamer le combat révolutionnaire. Donc évidemment ces regroupements, même si ils ne sont pas tous en accord, sont importants comme jalons vers ce qui va devenir la Troisième Internationale. Tous n'y participeront pas, mais les principaux dirigeants de la Troisième Internationale vont participer directement ou indirectement à ces conférences pendant la guerre. L'année 1917, comme vous le savez, la situation va complètement changer au niveau géopolitique, stratégique et finalement historique, puisque éclate la révolution russe, aussi de manière inattendue. Je ne fais pas le topo sur cette révolution de février à octobre, mais toujours est-il que les bolcheviks arrivent au pouvoir. Ils vont se retrouver donc à la tête d'un grand pays, ils conçoivent cette révolution comme une sorte d'accident historique, au sens où personne ne pensait que la révolution socialiste puisse avoir lieu dans un pays aussi peu développé que la Russie sur le plan capitaliste, mais saisissant l'opportunité de prendre le pouvoir, les dirigeants bolcheviks estiment que cela va permettre de déclencher la révolution en Europe et tout particulièrement en Allemagne, qui à ce moment-là est le cœur de l'Europe, aussi bien d'un point de vue économique que du point de vue du niveau d'organisation et de conscience de son prolétariat. Donc la révolution russe dirigée par les bolcheviks est conçue par tous les dirigeants bolcheviks, comme le premier pas vers la révolution mondiale et pas du tout à ce moment-là comme une fin en soi ou une révolution qui devrait rester circonscrite à la seule Russie. Donc c'était mon prologue. L'international communiste naît donc de la guerre et de la révolution russe, pour résumer, sa première phase d'existence. Donc, c'est effectivement pendant une montée révolutionnaire qui semble confirmer au début, donc pendant plusieurs années, les pronostics des bolcheviks et de la gauche socialiste internationale ou européenne, puisque entre 1919 et 1923, on a une multiplication de luttes puissantes. Des grèves de masse, grèves générales et processus révolutionnaires insurrectionnels qui font un portrait de l'Europe dans lequel il apparaît que tout est possible. Alors, cela justifie la fondation de la Troisième Internationale qui a lieu le 2 mars 1919 lors d'une conférence internationale à Moscou. Cette conférence, elle est convoquée au départ parce que la Deuxième Internationale, vu que la paix est rétablie depuis deux mois, a décidé de se réunir. Nouvelle extraordinaire, ils ne se sont pas réunis depuis 1914 et ils se disent « bon, ben, peut-être qu'il faudrait qu'on se réunisse » et donc ils convoquent une réunion à Berne en février. au cours de laquelle il décide de tourner la page des accusations réciproques qui s'étaient envoyées à la face pendant la guerre, en disant que c'était l'autre camp qui était responsable de la guerre. Bon, et du coup, les participants aux conférences de Timmerwald et de Kiental se demandent s'ils doivent participer à cette conférence de la Deuxième Internationale, puisque officiellement, ils en sont encore membres. Ils sont encore membres des partis de la Deuxième Internationale, et la grande majorité décide de la boycotter et refuse de remettre sur ses pieds cette Deuxième Internationale. Et donc, du coup, les dirigeants bolcheviques et les autres partisans de la Révolution russe, qui a évidemment un très grand prestige, on est au début du processus encore, décide de convoquer une conférence alternative les semaines suivantes, parce qu'il s'agit pour eux d'organiser tout le secteur de la gauche de la Deuxième Internationale qui refuse la faillite et qui veulent relancer le combat pour une internationale révolutionnaire. Alors il faut bien voir qu'on est en pleine guerre civile en Russie, puisque bien sûr les tsaristes, les capitalistes, avec le soutien des grandes puissances impérialistes coalisées, hein, les Français, les Anglais, les Américains, les Japonais, enfin tous, ont décidé d'attaquer le jeune État soviétique pour l'empêcher d'exister. Donc c'est une guerre civile atroce, hein, qui se déroule depuis déjà plusieurs mois. Et c'est donc dans ce contexte que, malgré tout, les dirigeants bolcheviques décident de convoquer cette conférence parce qu'ils estiment que le combat international est une priorité dans toutes circonstances. C'est-à-dire que la guerre civile ne saurait justifier, malgré toutes les difficultés que cela représente, évidemment, en termes de transport, d'acheminement, tout le monde comprend, ne saurait justifier qu'on ajourne la question de l'international. Une priorité, ça veut dire que toutes affaires cessantes, on doit être capable de réunir les dirigeants de la gauche socialiste, des partisans de la Révolution, pour mener le débat sur la nouvelle internationale qui doit être mise en place. On a cette réunion qui est faible par le nombre de participants. Hein, il y a 35 participants seulement. La plupart ne sont pas élus parce que leurs organisations sont petites, pourchassées ou même inexistantes dans l'État. Le parti allemand, par exemple, qui vient d'être fondé en décembre 1918, n'est représenté que par un délégué, sachant que donc, cette réunion a lieu quelques semaines après l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht par l'extrême droite allemande sous la responsabilité politique des sociaux-démocrates qui dirigent l'Allemagne. Je vais y revenir à ce moment-là. Donc, c'est des conditions extrêmement difficiles. Et en plus, la discussion sur l'opportunité de proclamer l'international, pas sur l'opportunité de faire la réunion, mais sur l'opportunité que cette réunion soit la réunion de fondation, cette discussion n'a pas pu être vraiment menée, de sorte que le parti communiste allemand n'est en fait pas convaincu qu'il faille déjà la proclamer, parce qu'ils estiment que justement il n'y a pas encore assez d'organisations, il n'y a pas encore assez de militantes et de militants qui sont d'accord pour ça. Donc notamment Rosa Luxembourg, avant d'être assassinée, défendu l'idée qu'il était prématuré de proclamer cette troisième internationale, et donc le délégué allemand au congrès, enfin là, ce qui est une conférence au départ, ne va pas soutenir cette proposition, engendre une discussion extrêmement importante où les dirigeants bolcheviques qui, eux, étaient pour la proclamer vont hésiter. Hein, donc c'est pour dire l'importance qu'ils donnent à la révolution allemande et donc au parti allemand. L'intervention du seul délégué allemand suffit à ébranler la conviction des bolcheviques. Et donc, au début, ils se disent, si le parti allemand n'est pas d'accord pour proclamer l'international maintenant, alors on ne va pas la proclamer. Et puis finalement, la discussion se mène, la plupart des autres délégués sont pour la proclamer. Et donc, le vote l'emporte avec plusieurs abstentions, dont le délégué allemand. Mais l'idée, c'est que même si l'organisation est quand même très faible, il est important de montrer au monde, et notamment aux partis sociaux-démocrates, socialistes, etc., qu'il y a une alternative à la Deuxième Internationale, qu'il y a une urgence de ce point de vue-là, même si les partis communistes sont encore pour la plupart inexistants. Cette conférence qui proclame la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, adopte des textes assez importants, dont le principal, sur le plan programmatique, à part bien sûr le soutien à la révolution russe et la recondamnation de la guerre impérialiste et de la politique des socialistes, donc c'était évident, le principal point d'élaboration programmatique, c'est l'idée que la dictature du prolétariat était la formule employée depuis Marx pour désigner l'État quand il serait dirigé par les ouvriers après la Révolution. Donc la dictature du prolétariat doit prendre la forme des soviets. Alors, les soviets, c'est des structures d'auto-organisation qui sont nées en Russie en 1905, lors de la première révolution, qui sont réapparues en 1917 de manière assez spontanée chez les ouvriers et aussi chez les soldats et les paysans de Russie. Et ça assure effectivement une démocratie prolétarienne au sens où les gens s'auto-organisent, les gens élisent leurs délégués sur la base de mandats, se retrouvent au niveau régional, au niveau national, etc. Et décident eux-mêmes de la politique qu'ils veulent, qui n'empêche pas les partis d'y intervenir et de pouvoir peser par leur influence pour évidemment convaincre les uns et les autres. Donc c'est des moments de démocratie importantes. Et la conclusion des bolcheviks à ce moment-là, c'est que la dictature du prolétariat doit donc prendre cette forme de démocratie ouvrière par les comités d'auto-organisation. Et ça va être donc un modèle qui est proposé d'étendre aux autres pays que la Russie si la révolution éclate. Et ça permet également de faire la clarté sur la nature des démocraties bourgeoises, puisque un des grands problèmes de la Deuxième Internationale, c'est que les partis qui la composent se sont mis à faire confiance dans les formes de la démocratie bourgeoise, notamment le suffrage universel et le Parlement, parce que dans certains pays comme la France, c'est la République, dans d'autres comme l'Angleterre, c'est la monarchie constitutionnelle. En Allemagne, c'est encore un empire, bien s'il y a un Parlement et des lois qui peuvent être votées en faveur des ouvriers dans ce Parlement. Mais quelle que soit la forme de l'État, le suffrage universel a semé beaucoup d'illusions sur la possibilité d'avancer vers le socialisme par la voie légale et donc scientifique. Et l'une des clarifications du premier congrès de l'Internationale communiste, eh bien, c'est d'expliquer que la bourgeoisie elle peut tolérer, et même parfois c'est son intérêt, des formes démocratiques plus ou moins avancées, parce que ça permet aux contradictions entre les classes ou entre les fractions de classe de s'exprimer au mieux et du moment que l'État assure la gestion globale de l'ordre, cela permet de faire respirer la vie civile et politique. Mais par contre, évidemment, dès que les intérêts fondamentaux de la bourgeoisie sont mis en cause, alors les formes de la démocratie sont vite balayées et ça n'est donc pas du tout une fin en soi ou une garantie dont on pourrait, en tant que socialiste, se servir jusqu'à la révolution elle-même. Donc il y a clarification sur la démocratie bourgeoise et sur le fait que la dictature du prolétariat, loin d'être une dictature au sens que le mot a pris aujourd'hui, devrait être au contraire une réalisation de la démocratie en tant qu'auto-organisation des travailleurs et des travailleuses qui sont... Alors, dans les années d'après-guerre, comme je le disais, le contexte est celui d'un retour, d'une accumulation extrêmement importante des luttes, y compris institutionnelles. En plein pendant le congrès ou dans les semaines qui suivent, on a de nouvelles manifestations de cette situation. Le processus révolutionnaire il s'est ouvert en 17 en Russie. Il s'est étendu en 1918, notamment en novembre 1918, dans les puissances qui ont perdu la guerre, donc en Allemagne et en Autriche-Hongrie, puisque en novembre 1918, les empires centraux, donc les deux empires allemands et austro-hongrois, se sont effondrés sous le coup d'une insurrection ouvrière qui les ont balayés, qui ont mis en place des républiques, parce que même si c'est une mobilisation ouvrière qui les a balayés, vu que les ouvriers sont dirigés encore par des partis sociaux-démocrates, ceux-ci ont décidé de mettre en place pour sauver l'État une république démocratique, et y compris ils en deviennent les dirigeants, notamment en Allemagne. C'est un social-démocrate qui prend la tête de l'État allemand pendant la période de transition Et après, évidemment, il faut créer une constitution, il faut convoquer les élections, etc. Bon. Donc, en novembre, décembre, janvier, c'est des sociaux-démocrates qui dirigent des États, ceux qui ont perdu la guerre. Et du coup, forcément, le processus révolutionnaire se poursuit avec des débats entre disons, les sociaux-démocrates et les futurs communistes, ceux qui s'opposent à eux et qui veulent que ce processus révolutionnaire qui commence aille jusqu'à une révolution prolétarienne, c'est-à-dire qu'on en finisse avec le capitalisme et qui propose donc des formes soviétiques de république avec des tentatives d'insurrection, notamment à Berlin en janvier 1919, qui se termine mal, puisqu'il y a notamment l'assassinat de Luxembourg et de Liebknecht, mais évidemment aussi la défaite de cette insurrection berlinoise des ouvriers, qui sont, on peut les appeler communistes maintenant, puisque depuis le 30 décembre, le parti communiste allemand, le KPD, a été formé. Il y a en Bavière, donc dans un état du sud, dans une région du sud de l'Allemagne, une république des conseils qui est mise en place en avril 1919, qui va durer un mois seulement, mais qui montre aussi l'effervescence et la puissance de la gauche socialiste, donc des communistes qui sont capables de renverser des institutions bourgeoises et de mettre en place leurs propres institutions, même si après ils sont balayés par la répression de l'État. Dans l'Empire austro-hongrois, il y a des phénomènes analogues, avec notamment une révolution en Hongrie, à nouveau une république des conseils qui est mise en place au mois, entre mars et août 1919. Et ce processus va se poursuivre avec des grèves et des insurrections dans les années suivantes, notamment en mars 1920, il y a un putsch d'extrême droite en Allemagne qui est organisé par un général qui s'appelle Kapp. C'est le soulèvement ouvrier de Berlin avec une grève générale alors beaucoup de gens sont armés à ce moment-là parce que la Première Guerre mondiale s'est terminée par une vaste débandade de l'armée en Allemagne, donc les armes circulent de tous côtés à l'extrême droite et aussi du coup chez les communistes, etc. Et donc cette grève générale et cette insurrection semi-armée, disons, met en échec le putsch de Kapp, alors que le gouvernement officiel de l'Allemagne s'est enfui lâchement pour se réfugier à Stuttgart, en étant incapable de mobiliser, y compris sa propre armée, pour mettre à fin au putsch de Kapp. C'est-à-dire que sans la mobilisation de la classe ouvrière, où le SPD participe, hein, pour le coup, l'extrême droite aurait pu prendre le pouvoir à ce moment-là, et c'est une démonstration que la nouvelle République est absolument incapable, y compris de se défendre contre l'extrême droite, sans l'intervention des ouvriers. À la suite de ce succès indéniable, le KPD, donc le Parti communiste, le KAPD, qui est un parti communiste sur une orientation différente, l'USPD, qui est un parti qui a refusé pour l'instant de choisir entre le KPD et le SPD, donc trois partis, disons, de gauche, d'extrême gauche, on dirait aujourd'hui, déclenchent dans la Ruhr, donc à l'ouest du pays, une zone très industrielle, une insurrection avec une grève, des conseils, une armée rouge, l'armée rouge de la Ruhr, qui regroupe quand même 50 à 80 000 morts, donc pour essayer d'enclencher la révolution dans toute l'Allemagne. Et là, pour le coup, le gouvernement officiel de la République sait intervenir, autant que pour le putsch de Kapp, il n'a pas su, mais là, il comprend le danger et donc il sait intervenir. Il envoie l'armée qui évidemment, tire, il y a 2000 morts et l'insurrection est battue. Voilà, donc ça, c'est les troubles sociaux et politiques dans les pays qui ont été les principaux pays battus. On a également en Italie, qui est aussi un pays qui est battu dans la guerre, on va dire, des troubles sociaux de 1917 à 1920, avec d'abord des mouvements contre la vie chère, mais aussi un mouvement d'occupation des usines pour la première fois dans l'histoire, au cours de l'année 1920, par des ouvriers, des ouvrières là aussi armées, qui vont, eux, être moins réprimée, pas vraiment réprimée dans le sang, mais plutôt battue par la politique des dirigeants socialistes et syndicalistes qui font un accord avec le gouvernement. Et les ouvriers et les ouvrières sont dupés par cet accord. Notamment, ils sont restés dans les usines sans vraiment faire des mobilisations de masse dans les rues. Ils se sont donc isolés. Et finalement, c'est un mouvement qui échoue, mais qui montre aussi des ressources d'auto-organisation et de mobilisation particulières. Et enfin, même dans les pays vainqueurs, où évidemment la situation politique n'est pas la même, où en gros la classe ouvrière fait encore front avec son gouvernement puisqu'ils ont gagné la guerre et qu'ils ont l'impression que du coup, c'était pas faux de la mener. Mais malgré tout, même en France, en Grande-Bretagne, il y a une agitation sociale assez forte, jusqu'à une grève générale en France en mai 1920, y compris avec des acquis sociaux significatifs qui en découlent, mais une répression de la grève avec des licenciements massifs qui fait que le gouvernement l'emporte. Et en Angleterre également, il y a des batailles de rue et d'usines pendant 3 ans, avec comme apogée la grève des mineurs de l'hiver 1920-1921. Bon, donc il y a une agitation sociale grande dans tous les pays qui semblent justifier l'idée que la révolution peut s'étendre au reste de l'Europe après la Russie. Alors la véritable fondation de la Troisième Internationale, là, elle a été proclamée en mars 1919, mais on estime que sa véritable fondation organisationnelle, c'est à l'été 1920, donc on est encore au cœur de ces processus qui viennent de décrire, donc c'est l'enthousiasme qui préside, d'autant plus que la différence qu'il y a avec le précédent congrès, c'est qu'à ce moment-là, l'armée rouge, donc l'armée soviétique, semble en passe de l'emporter sur l'ensemble du territoire de ce qui va être plus tard l'Union soviétique. Militairement, elle est en train de gagner, elle n'a pas encore gagné, la guerre se poursuit, mais ils ont bon espoir de gagner, notamment parce qu'on est en pleine campagne contre de riposte à l'attaque des nationalistes polonais, et l'armée rouge est en train d'emporter victoire sur victoire au cours même du congrès pendant l'été 1920, et donc on a le sentiment que non seulement l'État soviétique va pouvoir être stabilisé, mais qu'en plus, grâce à la puissance et au prestige de son armée qui a vaincu une coalition de 18 pays impérialistes et des armées tsaristes, il y aura un recours militaire pour les processus révolutionnaires d'Europe. Bon, donc c'est un enthousiasme de tous les délégués au Congrès. Il y a beaucoup cette fois d'organisations qui sont représentées, il y a de vrais délégués, même s'il n'y a pas encore dans la plupart des pays des vrais partis communistes, mais il y a des vrais délégués de la gauche. Ils ont des partis socialistes qui sont en train de débattre, savoir s'ils vont rejoindre ou pas la Troisième Internationale. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à rejoindre la Troisième Internationale parce qu'ils sont enthousiasmés par la révolution, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont bien compris toute la politique des bolcheviks et qu'ils sont en accord au fond avec tout ce qui se fait et ce qui se prépare. Donc il y a pas mal de confusions politiques c'est pourquoi les bolcheviks décident de proposer 21 conditions, donc c'est le congrès des fameuses 21 conditions, pour adhérer à l'Internationale communiste, qui sont des conditions en fait assez restrictives, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de se dire voilà, on va essayer de regrouper massivement les segments des partis socialistes en crise, mais on ne veut regrouper que les authentiques révolutionnaires et pas les opportunistes, pas ceux qui vont venir parce que ça va leur permettre de garder leur poste de parlementaire, de journaliste ou de permanent du parti. Donc, dans ces conditions, dans ces 21 conditions, il y a bien sûr la reconnaissance que la dictature du prolétariat est la solution révolutionnaire et qu'elle doit prendre la forme des conseils. Il y a le refus du parlementarisme, non pas de participer au Parlement, mais d'en faire une fin en soi ou d'en faire l'axe principal d'existence des partis. Il y a l'idée que les partis communistes doivent mobiliser dans les rues, doivent avoir une action illégale, se préparer à des conditions de répression et pas faire comme si la démocratie bourgeoise allait leur permettre indéfiniment d'exister tranquillement. Donc voilà, un ensemble de conditions qui sont assez strictes et assez dures pour que n'adhèrent à la Nouvelle Internationale que ceux qui sont vraiment convaincus qu'il faut une orientation révolutionnaire et qui sont prêts à en tirer les conséquences en termes de pratique et en termes d'activité, avec tous les risques que cela, évidemment, dans la période, entraîne. Cela va avoir des conséquences, des implications importantes. Les communistes, dans la plupart des pays, vont être minoritaires dans les scissions donc, qui se font à ce moment-là. Hein, en gros, la consigne, c'est que soit ils sont majoritaires et alors ils excluent les partisans de la Deuxième Internationale, soit ils sont minoritaires et alors ils partent. Hein, donc, le clivage doit être réglé, la séparation doit être faite partout. C'est la consigne du Congrès. Voilà. Il y a des exceptions donc, qui sont minoritaires dans la plupart des pays, par exemple en Allemagne, mais ils sont majoritaires en France et en Italie, qui sont deux pays évidemment assez, assez importants. Donc, le parti français, sous le nom de Parti communiste, section française de l'International communiste, pas de PCF à ce moment-là, hein, PCSFIC, est constitué en décembre 1900 au fameux congrès de Tours, avec une nette majorité, presque les trois quarts, pour la Troisième Internationale. Donc, ça fait quand même 120 000 membres, et seulement donc, 40 000 restent à la vieille FIO. Et les communistes sont aussi majoritaires dans le parti italien au congrès de Livourne en janvier 1921. Donc les conditions, elles ont été strictes, mais elles n'ont pas empêché que des majorités dans certains pays puissent se dégager pour construire des partis communistes, même si, là encore, ça ne veut pas dire que tout le monde a bien compris dans quel chemin il s'engageait, et donc ça n'est pas sans conséquence, mais enfin, c'est quand même des victoires assez importantes suite à ce congrès d'août 1920 de l'International communiste. Il y a eu dans ce congrès une discussion aussi sur la question de ce qu'on appellera le gauchisme. Donc le gauchisme, pour nous qui nous réclamons de Lénine et Trotsky, c'est pas le même sens que le mot habituel qui désigne en gros nous, qui désigne l'extrême gauche. Donc le gauchisme à l'intérieur du mouvement communiste, ça désigne un courant politique assez précis à ce moment-là, qui existe en Hollande et en Allemagne surtout. Et dirigé par notamment quelqu'un qui s'appelle Porter, et qui pense que, vu que la révolution est à l'ordre du jour, et vu que la rupture avec les socialistes est impérieuse, il faut aller jusqu'au bout des conséquences selon eux, c'est-à-dire boycotter les élections et le Parlement, et refuser de participer aux syndicats qui sont dirigés par les socialistes ou les sociaux-démocrates. Donc c'est les deux axes de la politique dégauchiste. Et pourquoi est-ce que c'est un point important du débat de la Deuxième Internationale? Eh bien, c'est parce que cette ligne gauchiste, elle est plus importante en Allemagne que la ligne, disons, bolchevique, puisque le KAPD, donc le parti communiste des ouvriers d'Allemagne, dirigé par Gorter, qui à ce moment-là est en Allemagne, regroupe à peu près 50 000 militants au printemps 1920, alors que le PD n'en totalise qu'à peu près 30 000. Donc le gauchisme n'est pas minoritaire, mais au contraire, à ce moment-là, majoritaire. Et le KPD s'est constitué dans une crise avec le KPD, où le dirigeant du KPD, qui s'appelle Paul Lévy, les a plus ou moins exclus. Bon, c'est un peu compliqué ce qui s'est exactement passé. Mais en gros, il voulait un parti de masse et donc il refusait cette ligne gauchiste. Bon. Donc Lénine, il va faire une intervention par un livre au printemps 1920 qui essaye de ne pas rompre le lien avec le KAPD parce que comme ils sont majoritaires et que l'Allemagne est le pays principal où la situation est révolutionnaire, évidemment, on ne peut pas se passer d'un parti pareil. Bon. Et donc le KPD devient section sympathisante de l'International communiste. Le KPD reste section officielle, donc il y a en gros deux sections de l'International communiste en Allemagne. À ce moment-là, donc même si Lénine condamne sévèrement la politique gauchiste, il y a encore une ouverture pour essayer que le débat puissent aboutir à des résultats sans passer par des exclusions comme Paul Lévy a commencé à en faire, ce qui a comme résultat que le parti est du coup divisé en deux à ce moment-là. Mais la politique de Paul Lévy n'est pas totalement infructueuse parce qu'en même temps, et avec accord de l'international, hein, il mène une politique de négociation avec l'USPD. Donc l'USPD, C'est ce qui reste d'un parti intermédiaire entre le KPD et le PD, qui, en décembre 1918, n'a pas voulu rejoindre le KPD de Luxembourg et Liechtenstein, mais qui se divise à ce moment-là avec une droite qui va finir par rejoindre le Parti Social, le SPD, et une aile gauche qui, elle, s'unifie avec le KPD. Donc il y a une deuxième naissance du KPD, le Parti communiste allemand, décembre 1920, donc après le congrès de l'international, c'est pour ça qu'il s'appelle le Parti communiste unifié d'Allemagne, donc c'est sa deuxième naissance. Et l'USPD a été un parti très massif, moins actif, mais quand même très massif, et puis il a participé à la lutte contre le putsch de Cap, etc. Donc il a beaucoup de qualités actives. Et la fusion des deux partis donne un parti qui fait à peu près 300 000 membres à la fin de 1920, avec des organisations périphériques, la jeunesse, etc. On va jusqu'à 500 000 membres. Donc c'est un parti de masse pour la première fois, un parti communiste de masse pour la première fois, qui est extrêmement important. Et ça va entraîner une marginalisation très rapide du KPD, puisque face à cette réalité du succès du nouveau KPD, les membres du KPD vont soit finalement rejoindre le KPD unifié, soit se diviser entre eux dans des chamailleries de gauchistes, qui fait qu'il finit par disparaître en 1922, à part quelques groupuscules. Voilà, donc il y a un vrai parti communiste allemand à ce moment-là. Et enfin, dernier point important de la période de l'été, disons, 1920. Alors, ce n'est pas directement le congrès de la troisième phase dont je viens de parler, mais c'est une conférence des peuples allemands qui est organisée dans la foulée du congrès de la deuxième internationale et qui se tient à Bakou. Donc, on appelle ça le congrès de Bakou. Donc, Bakou, c'est une ville d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un pays d'Asie centrale qui a été emporté par la vague révolutionnaire et qui est donc dirigé par des soviétiques, mais des soviétiques azerbaïdjanais, puisque c'est un des rares pays de l'Asie centrale ex-empire tsariste où il y a eu une vraie activité social-démocrate avant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a des, comme dans les autres pays, en fait, une division entre les communistes et les socialistes, disons, et les communistes ont donc un vrai ancrage dans les villes d'Azerbaïdjan. Et donc, c'est pour ça qu'on décide de faire ce congrès des peuples d'Orient à Bakou. Mais on a constaté que, évidemment, les peuples non-européens étaient, enfin, les pays non-européens étaient sous-représentés encore au deuxième congrès, même s'il commençait déjà à y avoir des délégués mais, de certains pays. Bon, je rappelle que les conditions d'accès au congrès sont difficiles. À chaque congrès, il y a plusieurs morts sur le trajet ou sur le retour. On n'est pas délégué comme ça, on ne prend pas le train et on arrive tranquillement. Bon, donc on joue sa vie à chaque fois, donc c'est très difficile, bien sûr, de se réunir. Donc, ce n'est pas la mauvaise volonté de la part des bolcheviks, mais le fait est que c'est difficile d'avoir des délégués de pays, disons, lointains. Et donc, la conférence de Bakou a comme but d'essayer de réunir sous une forme un peu différente les représentants des peuples communistes, avec un vrai succès qui est géographiquement limité, mais qui est assez important. Donc, il y a presque 2000 délégués. C'est donc un des plus grands événements internationaux de tous les temps à ce moment-là. Hein. Donc, il y a 2000 délégués. Il y a des représentants de non seulement d'Azerbaïdjan, mais bien sûr aussi des Turcs, des Iraniens, les Persans on dit à l'époque, des Arméniens, des Géorgiens, et quelques, beaucoup moins nombreux, quelques Kurdes, quelques Arabes, quelques Indiens, quelques Chinois, quelques Coréens. Donc ça donne une physionomie assez différente à cette réunion par rapport au congrès, disons, officiel qui a eu lieu quelques semaines auparavant. Donc c'est une première mondiale. Et deuxièmement, il y a une particularité, c'est que parmi ces délégués, même s'il y a une majorité de communistes, peut-être 60 ou 65%, il y a quand même un grand nombre de non-communistes qui viennent parce que la Russie soviétique leur promet un soutien à la lutte pour l'indépendance nationale contre l'impérialisme. Donc c'est un congrès, en fait, avant tout anti-impérialiste, qui mêle des communistes et des non-communistes, mais les non-communistes qui sont prêts à mener un combat révolutionnaire pour chasser les impérialistes de leur pays. Bon. Parmi l'ensemble de ces délégués, communistes ou pas communistes, il y a une majorité qui sont musulmans, puisque ce sont des pays où, à domination de la religion musulmane. Là aussi, ça entraîne un certain nombre de discussions de nature assez différente de celles qu'on peut avoir dans les qu'on a pu avoir dans le congrès officiel de l'international, avec une réflexion sur l'articulation entre la religion et le combat politique, entre le combat pour la révolution prolétarienne et le combat pour la révolution démocratique bourgeoise ou nationale, etc. Bon, il y a pas mal de confusions politiques qui règnent. En fait, les bolcheviks eux-mêmes n'ont pas beaucoup élaboré sur la question. C'est vraiment une première et c'est donc très discutant. Il n'y a pas de clarification faite sur la façon dont on peut mener le combat à la fois pour la révolution prolétarienne et pour un soutien partiel à la révolution nationale bourgeoise dans les pays dominés. Mais il y a quand même des discussions intéressantes, notamment à partir de la figure d'un personnage qui s'appelle le sultan Galief, qui lui théorise que dans un premier temps, il faut faire une révolution nationale démocratique et seulement dans un second temps, on pourra passer à la préparation de révolution communiste. Donc, on pose deux étapes dans la révolution, mais bon, il n'est pas soutenu ni non plus contredit à ce moment-là par les dirigeants internationaux. L'international a la subtilité tactique d'en appeler à la guerre sainte contre au djihad contre l'impérialisme, à l'indignation du délégué américain John Reed, qui trouve que c'est quand même un peu choquant, un peu démagogique de faire ça comme ça. Mais en réalité, bon, c'est l'idée de déployer les ressources révolutionnaires de ceux qui subissent l'oppression impérialiste dans une période qui est évidemment importante, avec une effervescence, donc pas seulement en Europe, hein, puisque par exemple en Turquie, qui est un pays qui a été battu officiellement dans la guerre, mais c'est pas eu beaucoup de combats, on a donc le démantèlement de l'Empire ottoman et l'arrivée des nationalistes au pouvoir. En Chine, il y a eu déjà une proclamation de la République en 1911, mais on a en 1919, le 4 mai, le mouvement du 4 mai, une mobilisation semi-insurrectionnelle d'étudiants et d'ouvriers de Shanghai, notamment pour exiger la mise en place d'une véritable république démocratique. Voilà, donc il y a dans les pays colonisés une effervescence qui commence, mais qui est déjà significative. Il y a par ailleurs quelques femmes qui sont déléguées, il y a 55 déléguées femmes, donc ce n'est pas beaucoup dans l'absolu, enfin, ou disons dans la proportion, mais c'est quand même intéressant puisque ça veut dire que pour la première fois dans ces régions du monde, il y a des déléguées femmes qui peuvent exprimer des revendications qui, en gros, sont des revendications démocratiques, intégrant d'ailleurs le refus du voile obligatoire. Évidemment, dans ces pays, c'est extrêmement important. Refus de la polygamie pour l'égalité des droits dans la vie civile et politique, et le droit à l'instruction des femmes comme des hommes, mais aussi la mise en place de comités de femmes dans les villes et les villages pour défendre et promouvoir les droits. Donc, on a jusqu'à l'automne, disons 1920, une situation marquée à la fois par la montée des luttes et par cette élaboration tous azimuts qui se fait avec plus ou moins de la confusion, mais de manière extrêmement intéressante et fructueuse, disons prometteuse, non seulement pour les pays centraux, mais également pour les pays colonies des impérialistes. Le problème, c'est qu'à la fin de l'année 1920 et au début de l'année 21, on va avoir un tournant dans la situation qui ne marque pas encore forcément la fin de la période révolutionnaire au sens un peu large du terme, mais qui en tout cas marque une pause dans cette période. Ce n'est pas tout à fait la fin, parce qu'on va le voir en 1923, il y a un soubresaut révolutionnaire qui aurait pu être décisif, mais c'est quand même une pause significative, avec une série de défaites. Des grèves anglaises, des grèves françaises, de la grève générale tchécoslovaque, du mouvement des occupations d'usines italiennes. Tout ça intervient dans le deuxième semestre 1920 de manière similaire. Il y a une répression très forte dans les pays qui ont été mobilisés. Par exemple, en Hongrie, il y a ce qu'on appelle la terreur blanche, avec des gouvernements pré-fascistes, non seulement contre les communistes, mais y compris largement anti-communistes. Et il y a en Union soviétique même, en fait, une défaite en Pologne contre toute attente, en fait, puisque encore à l'été 1920, les soviétiques pensaient, et tout le monde pensait qu'ils avaient gagné. Et puis, en fait, la résistance des Polonais contre ce qu'ils considèrent comme une recrudescence de l'impérialisme russe est telle que finalement l'armée rouge est battue. Donc au tournant 1920-1921, les espoirs, disons, d'un soutien militaire à l'exportation de la révolution sont taris, puisque ça n'est plus possible de mener une offensive militaire. Et par ailleurs, la Russie elle-même est évidemment exempte par 4 ans et même 8 ans de guerre sans interruption. Et donc, on est obligé de toute façon de changer de politique. C'est à ce moment-là, en mars 21, que le Congrès du parti russe va décider de mener une nouvelle politique, la nouvelle politique économique, la NEP. Je ne reviens pas sur ces aspects-là, mais évidemment, c'est le contexte qui permet d'apprécier qu'au niveau international, les choses sont en train de changer. Et en Allemagne, on a une nouvelle action insurrectionnelle en mars 1921, donc c'est au moins la quatrième depuis 1918 ou la cinquième, une nouvelle action, mais cette fois très mal préparée, où le KPD a voulu, il était tout fier d'avoir 300 000 membres à la fin 1920, comme je le disais, et donc il s'est cru en mesure de pouvoir déclencher une révolution, mais là pour le coup, c'est vraiment une action aventureuse. Et donc, c'est une action noyée dans le sang, qui va surtout entraîner la rupture de centaines, de 200 000 membres à peu près du parti, qui n'étaient pas convaincus tout simplement, qui pensaient que c'était n'importe quoi, notamment Paul Lévy, mais quand même, au moins la moitié ou le tiers des membres officiels du parti décident de le quitter suite à cette action, en estimant qu'ils ne sont pas rentrés dans ce parti pour faire des actions complètement gauchistes ou aventuristes. Et donc, ça aussi, ça marque une pause dans la situation révolutionnaire des années immédiates de guerre. Plus structurellement, là, ça fait donc 2 ans et demi que la guerre est terminée. L'économie capitaliste a fini de se reconvertir en économie civile. La reconstruction de l'Europe est bien engagée. Rien de tel qu'une bonne guerre, bien sûr, comme vous le savez, pour dévaloriser le capital et repartir l'accumulation. On a une reprise de l'économie capitaliste qui joue évidemment son rôle dans la fin de la période de mobilisation intense des ouvriers, notamment parce qu'on peut embaucher largement. Et enfin, on ne peut pas nier que la scission entre communistes et socialistes, même si politiquement elle était indéniablement justifiée, elle entraîne quand même un affaiblissement du mouvement ouvrier, puisque évidemment, la lutte que se mènent les socialistes et les communistes, c'est autant d'énergie qui est dépensée et qui n'est plus disponible pour la lutte de classe à l'intérieur des pays. Et donc la bourgeoisie profite de cette division du mouvement ouvrier pour reprendre la main. Elle a fait quelques concessions dans les pays où il y avait des grèves ou des grèves générales. Elle en reprend une partie, elle licencie, elle emprisonne des dirigeants, etc. Donc on a un certain affaiblissement de la lutte de classe démocratique dans cette... On a un troisième congrès qui va donc intervenir en juin 1921, qui commence à prendre conscience du changement de période. Bon, comme vous savez, c'est jamais facile de dater exactement et de bien comprendre les tournants dans la situation, mais c'est évidemment important de savoir le faire. Donc en juin 1921, les dirigeants d'un syndicat communiste comprennent que la situation est en train de changer, même s'ils n'en prennent pas tout à fait la mesure. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent que c'est qu'une petite pause provisoire, mais qu'elle est quand même suffisamment importante pour qu'ils aillent changer d'orientation. En gros, le moment n'est plus à la préparation des insurrections, des révolutions et des conseils ouvriers, notamment la crise du parti allemand, la nouvelle crise du parti allemand a montré qu'on ne pouvait pas s'engager indéfiniment dans cette voie. Et que, à part en France et en Italie, les partis communistes sont minoritaires. De fait, l'Institut communiste n'a pas réussi à engager avec elle la masse du prolétariat organisé d'Europe. Il faut aller conquérir ces ouvriers, les gagner politiquement, ce qui va prendre un peu plus de temps que prévu. Le prestige de la révolution russe est encore immense, mais il n'a pas suffi, il ne suffit pas pour gagner les ouvriers au parti communiste. Et donc, le mot d'ordre du troisième congrès de juin 1921, c'est « aller face », c'est-à-dire trouver les moyens de se construire dans la classe ouvrière de manière beaucoup plus profonde, au-delà des dirigeants et des militants qui avaient les éléments permettant de trancher, d'aller chercher les ouvriers eux-mêmes et donc de disputer l'hégémonie aux socialistes et aux sociaux-démocrates. Sur la question allemande, typiquement, le congrès essaye d'adopter une voie médiane. Donc à ce moment-là, les congrès servent vraiment à élaborer la politique des sections nationales et à trancher les différentes politiques qui peuvent exister, avec des vraies discussions démocratiques, une vraie élaboration. C'est assez intéressant de suivre le débat. Et donc là, la position de l'international, c'est d'une part, elle condamne Paul Lévy, qui est jugé droitier, mais qui en fait a déjà démissionné du cabinet